Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Valérie tient une boutique de vêtements et lingerie à Avallon, dans l'Yonne. La clientèle est régulière. Il faut dire qu'avec ses 6500 habitants, la ville n'est pas exactement, dit-elle, the place to be, mais elle est bien desservie et fréquentée par de nombreux Parisiens qui ont une résidence secondaire. C'est ainsi que Valérie, sans doute un peu lassée par les deux sous chics, songe à se reconvertir. Le 30 octobre 2019, après avoir liquidé son stock, elle fait le grand saut et ferme sa boutique sans repreneur pour le fonds de commerce. Ce qu'elle veut, c'est ouvrir un bar à vin avec, dit-elle, une connotation espagnole en mode tapas. Elle trouve pour ça un local, un ancien fleuriste en plein centre-ville qu'elle entreprend de transformer. Elle passe dans la foulée un diplôme en œnologie. Le bar s'appellera le 20h20, V-I-N-S, avec un jeu de mots. À la carte, elle songe à des tapas comme yakitori de charolais, samoussa feta et menthe ou crevettes aux épices douces, tradition et modernité. Un grand comptoir, 6 tables de 2, une vingtaine de couverts en tout, un rêve. Toutes ces économies, plus un emprunt de plusieurs dizaines de milliers d'euros y passent. Et pendant les 6 mois de travaux, elle ne gagne pas un centime. Mais ne lésine pas et se jette dans son projet corps et âme, choisit des artisans locaux, dessine le comptoir elle-même, fait tout fabriquer sur mesure. Lorsque les travaux sont enfin finis, Valérie fait appel à un graphiste pour qu'il réalise un carton d'invitation à l'inauguration. Nous sommes début mars, juste avant d'imprimer le carton, Valérie a cependant l'intuition que les choses ne vont pas se passer comme elle le voulait. Elle demande à l'imprimeur d'attendre un peu. Évidemment, le bar à tapas de Valérie n'ouvrira jamais. L'inauguration, prévue dans la deuxième quinzaine de mars, n'aura pas lieu, aucun tapas ne sera mijoté sur cette cuisine flambant neuve, pas une bouteille de vin tirée. En attendant de ressusciter, le 20h20 est mort avant d'être né. Et pendant ce temps, les factures pleuvent. Valérie est aux abois. Pas une seule aide ne s'applique à son cas, ni celle de l'État, ni celle de la région, puisque son activité n'a même pas commencé. Seule sa banque fait des efforts pour reporter les échéances, dit-elle, à Lyon républicaine où j'ai lu son histoire. Mais c'est la seule aide à laquelle elle peut prétendre. Cela fait plusieurs semaines d'ailleurs que Valérie ne veut même plus regarder de près ses finances personnelles. Trop vertigineux, trop déprimant. Tout de suite dans les pieds sur terre, trois autres histoires de banqueroute au temps du corona en mode vie quotidienne. Deux petits entrepreneurs et une banquière racontent leur expérience tristement banale et en tirent quelques leçons pour notre avenir. C'est un reportage de Fabienne Lomonier.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, je suis dirigeant, donc président d'une société d'une vingtaine de personnes. Notre métier, c'est le cintrage et la mécanosoudure de tubes pour des applications hydrauliques et agroalimentaires. Alors, la matière, elle est Europe, de l'Est, de l'Ouest et Chine principalement. On est sur une activité de sous-traitance, autrement dit, nous ne travaillons que sur des commandes de clients qui nous envoient des plans de pièces à fabriquer et on ne fait que ça. Alors, on était à peu près 22 personnes, on travaillait à peu près depuis 2-3 ans à peu près 40 000 heures par an. On était à temps plein depuis les 3 dernières années et quelques jours avant la mi-mars, des industriels ont commencé à fermer leurs portes suite à la crise du coronavirus. On a été amené, nous, à faire la même chose en date du 17 mars midi pour permettre aux 20 salariés de se confiner à leur domicile pour respecter le mot d'ordre du gouvernement. Alors même, on avait encore des fabrications et des pièces à livrer pour nos clients jusqu'à fin mars, début avril. C'était plutôt compliqué parce qu'il y a une décision à prendre alors même qu'il y a encore du business. Quelques jours avant la fermeture, j'avais déjà des absences de salariés qui demandaient à prendre du congé sans solde, du congé payé, de la récupération, n'importe quoi, pourvu qu'ils viennent pas travailler. Donc il n'y a pas eu d'inquiétude outre mesure. L'urgence, c'était de permettre à tout le monde de rapatrier son domicile et de se confiner pour se protéger. Moi, j'ai été extrêmement soulagé de cette fermeture au 17 mars, parce que je sentais une vague d'émotion, d'inquiétude dans la population salariée ouvrier qui commençait à grossir. Il était vraiment temps de s'arrêter. Nous, on est en mode production, donc il faut s'imaginer une petite usine, 1500 mètres carrés, dans lesquels tu mets 20 personnes qui se croisent à longueur de journée, qui échangent physiquement, et à un moment donné, face à l'incertitude et compte tenu de la brutalité des événements, on n'avait pas d'autre choix que de s'arrêter. Aujourd'hui, les pouvoirs publics nous disent, si vous n'êtes pas hôtel, café, restaurant, il n'y a pas de raison de ne pas continuer à travailler en prenant les mesures de précaution. Ça veut dire qu'il va falloir, par nécessité économique, sous contingence du pognon dont on dispose, qu'on a de disponible, qui va fixer le curseur à un niveau de temps, il va falloir à un moment donné se confronter à cette réalité que de reprendre le travail pour pas mourir économiquement, tout en prenant des risques, on le sait, sanitairement. Et cette dualité-là, je la trouve extrêmement pénible en termes de poids moral. Et je n'imagine pas exercer du pouvoir disciplinaire face à une attitude qui traduit de la peur, de la crainte. Moi-même, j'ai peur pour moi-même, j'ai peur pour ma famille. Quelle légitimité aurais-je à sanctionner une sorte de manquement, en l'occurrence la peur? J'estime, moi, pour ma part, que c'est pas un manquement. Cette crise épidémique, elle bouscule tous mes repères, des repères qui sont juridiques, qui sont moraux, bouscule tous mes repères, et nécessairement, il faut intégrer cette dimension psychologique des individus pour remettre tout le monde au travail, tout en respectant des mesures de sécurité. Nécessairement, il y aura des passe-droits pour certains qui sont dans une extrême difficulté ou détresse morale. Ça peut être l'anticipation de congés payés, peut-être pendant un an ou deux. Si une personne ne se sent pas capable de revenir travailler dans les 15 jours qui suivent la réouverture programmée de l'entreprise, moralement, comment pourrais-je la licencier? Une fois que la personne aura pris ses congés payés de l'année en cours, on a décalé le problème de 15 jours, 3 semaines, quid de la suite? Aujourd'hui, la solution qui consisterait à dire j'ai plus besoin d'effectifs parce qu'il n'y a plus beaucoup de boulot, je vire tout le monde, c'est comme un capitaine du bateau qui a une avarie au fond de la cale qui balance ses marins à la mer. C'est pas possible. Dieu merci, les pouvoirs publics ont mis en place du chômage partiel massif auquel nous, comme bon nombre de salariés, on a eu le droit. Donc à partir de là, tant qu'on est pris en charge, il n'y a pas de péril pour l'entreprise. Mais demain, quand les aides cesseront, combien de mois vais-je tenir en versant du salaire plein pot alors que je ne fais que travailler partiellement et que je ne rentre que la moitié de mon chiffre d'affaires? Moi, mon calcul, il est vite fait, je tiens même pas un an. Je veux bien perdre un tiers de l'argent que j'ai dans mon petit cochon, mais sous réserve qu'à un moment donné, les salariés y abandonnent une partie de leur salaire en abaissant le salaire à due proportion du travail qu'ils n'effectueront pas et qui ne sera pas pris en charge par les pouvoirs publics. L'État, c'est nous. Et aujourd'hui, les dépenses de l'État qui visent à soutenir les entreprises, c'est à la fois des impôts déjà acquittés et en même temps un alourdissement des impôts à venir. J'ai l'impression d'une compétition à handicap. J'ai l'impression qu'on nous fait courir tous les jours un 100 mètres en nous ayant mis et aux pieds et aux mains des poids pour satisfaire, moi, en tant que petit industriel, rikiki, hein, un gros donneur d'ordre de dimension mondiale qui est établi en France et qui a des usines de production, notamment en Chine. J'approvisionne du tube chinois, je ne le transforme même pas, j'en coupe un petit bout, je le mets dans un camion, un taxi, parce qu'il s'agissait d'une urgence, je l'envoie à mon client, en taxi, un petit bout de tube à 30 balles, 700 balles de taxi, Il arrive à destination du client. Le client réceptionne, le met avec un autre colis, le met dans un bateau et le bateau part en Chine. C'est quand même un non-sens. Très concrètement, aujourd'hui, si je veux approvisionner une partie de ma matière hors de Chine, je n'ai aucune solution alternative sur certains composants. Aucune solution alternative, c'est même plus une question de prix, c'est qu'il n'y a pas hors Chine. Notre activité aujourd'hui sur la Terre modifie des équilibres et que c'est cette modification des équilibres qui va générer ces crises-là. La réponse et les mentalités évolueront en fonction de la dureté de la crise. Il faudrait que la crise soit vraiment longue et profonde pour qu'il y ait véritablement des choses qui changent.
Je m'appelle Vincent, donc je suis associé dans une structure qui s'appelle Photo Play Event dans l'événementiel. On a 6 personnes, 6 salariés, et puis on embauche aussi une vingtaine de freelance. Dans l'événementiel, on installe des dispositifs photo sur des événements pour de l'animation, mais aussi pour de l'activation de marque. En France, on travaille pour le PSG, on a un contrat sur toute la saison, et le dernier week-end de février, j'étais donc au Parc des Princes avec le PSG et on a allumé la télé pour entendre le ministère de la Santé qui nous a annoncé que le semi-marathon était annulé. Et c'est là que j'ai compris que ça allait être compliqué. Donc la semaine continue et les annonces d'annulation d'événements continuent aussi. Puis c'est le deuxième vraiment gros tournant, le match de la Coupe de la Ligue du PSG qui est annulé. Et là, on se dit que bon bah si même la Coupe de la Ligue est annulée, tout va s'annuler quoi au fur et à mesure. Alors, on s'est regardé en se disant mais qu'est-ce qui nous arrive ? Enfin là, ça bascule. Tous les voyants étaient au vert. On était à 4 mois de notre clôture avec une belle augmentation de chiffre d'affaires. Et en 5 jours, tous les événements s'annulent. Tout d'un coup, plus de chiffre d'affaires, plus rien. Donc ouais, on a vraiment eu cette sensation de basculement total, de tout va bien à zéro chiffre d'affaires, l'enfer. Une nuit où j'avais réussi à m'endormir et je me suis réveillé en sursaut et je me suis dit mais c'est un cauchemar. Et en fait, au bout de 10 minutes, c'était pas du tout un cauchemar. Bah ouais, ce que je pense, c'est à notre agence, à nos freelances, à nos salariés, à nous, comment on va s'en sortir. On se met en place des réunions avec mon associé pour savoir comment on va s'en sortir, financièrement, mais aussi pour nos salariés, quoi. On arrive dans la crise bien avant tout le monde, donc début mars, fin février, où rien n'est mis en place par l'État. Donc nous, on n'a aucune aide, on n'a aucune perspective à court et moyen terme de comment on va s'en sortir en fait. Donc au niveau de la trésorerie, on avait un mois et demi de trésorerie d'avance, et pas beaucoup plus, on est quand même en flux tendu, et puis la problématique aussi, c'est qu'on avait pas mal d'annonceurs d'événements qui devaient nous payer et qui retardent évidemment à nous payer. Donc au niveau de la trésorerie, on va chercher l'argent qui est dehors et puis on essaye de limiter les charges, d'annuler des licences, tout ce qui peut nous coûter de l'argent en charge pour essayer de sauver un peu cette trésorerie et de payer nos salariés. Donc ça, c'est au début. Et après, on a eu quand même l'aide de l'État où, avec le chômage partiel, il nous a permis de soulager, ou en tout cas les salaires, dans un premier temps. Les précautions sanitaires et les mesures de sécurité sanitaire ne nous permettront pas d'organiser des événements en juin, en juillet, en août. Tout sera encore en suspens. Peut-être que en septembre, ça se débloquera. Mais rien n'est moins sûr. Et d'autre part, une crise économique nous attend, donc c'est forcément les milieux de la communication et de l'événementiel qui seront impactés en premier, parce que c'est des budgets qui sont facilement supprimables en tout cas. Et donc je pense pas qu'on sorte d'une crise, en tout cas dans l'événementiel, d'ici un ou deux ans en tout cas. Il est très probable qu'on fasse faillite à la suite de cette crise. Une des solutions, ce serait de refaire un prêt pour couvrir donc cette trésorerie. Après, nous, les questions qui se posent, c'est est-ce qu'on a envie de continuer ? Est-ce qu'on a envie de continuer comme ça ? Est-ce que on a envie encore de travailler comme ça aussi ? Est-ce que ce qui dit prêt dit se réengager sur un an, deux ans, trois ans ? Une crise comme ça, ça amène à des réflexions. En plus, là, on a le temps d'y réfléchir. Est-ce que moi personnellement j'ai envie de mettre peut-être un peu plus de sens à ce que je fais, moi avec l'agence que j'arrivais à trouver comme sens dans ce que je faisais, j'ai travaillé une vingtaine de photographes qui sont aussi artistes et du coup grâce au cachet qu'ils pouvaient avoir avec l'agence, avec ce qu'on faisait, ils pouvaient aussi créer eux de leur côté et, en tout cas ça me permettait de me dire aussi que c'était bien aussi ce qu'on faisait. Alors maintenant, est-ce que c'est toujours ça que j'ai envie de faire? Est-ce que ça a vraiment un sens? Est-ce qu'on ne peut pas le faire autrement en tout cas? Je sais pas très bien où on va aller en tout cas. Nous, notre agence, pour plus tard, parce qu'on a été les premiers impactés, mais on sera les derniers à sortir de cette crise en tout cas. En fait, je crois que j'ai pas vraiment peur. Ça me permet aussi de briser quelque chose qui était installé depuis 5 ans avec cette agence et dans mon travail personnellement. Et en fait, oui, je dormais pas très bien au début, mais là, maintenant, je pense pas vraiment avoir peur d'ici, tu vois.
Hélène, j'ai 35 ans, je travaille dans une grande banque depuis plus de 15 ans et ça fait 5 ans que je m'occupe de la clientèle des professionnels, donc artisans, commerçants, professions libérales, petites entreprises. En gros, c'est des structures qui font à peu près entre 1 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Eh bien, du jour au lendemain, beaucoup d'entreprises se sont retrouvées avec plusieurs situations qui s'offrent à eux, mais aucune ne leur convient. Hein, c'est que soit ils ont dû fermer leur boutique, soit devoir réorganiser leur travail avec leur personnel en fonction de ceux qui peuvent venir travailler, ceux qui télétravaillent, ceux qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils doivent garder leurs enfants, parce que les écoles ont fermé. Et donc, tout a été chamboulé sur l'organisation du travail et puis sur, évidemment, le nerf de la guerre, c'est-à-dire il n'y a plus de chiffre d'affaires qui rentre. Donc, nous, on est là pour monter le prêt garanti par l'État. Tout le monde en a entendu parler, mais c'est pas bien s'ils peuvent y prétendre, ce qu'ils peuvent faire, et s'ils ont droit, et combien ils peuvent demander. Donc, ça concerne toutes les professions. Il y a que les SCI qui n'ont pas droit. Et sinon, que tu sois un artisan en nom propre, une société de taille plus importante, un professionnel libéral de santé ou autre d'ailleurs, tout le monde y a droit. C'est sur le montant que ça se complique un petit peu, parce qu'il y a un plafond qui a été donné pour l'État, donc là c'est jusqu'à un quart des chiffres d'affaires annuels sur le dernier exercice. Mais dans la réalité, c'est aussi quelle capacité aura la structure à le rembourser, soit au bout d'un an de différé, soit un échelonnement qui peut aller jusqu'à 5 ans. Donc forcément, on peut pas se permettre d'endetter une structure qui serait déjà très endettée. Donc, il faut pouvoir les aider à traverser la crise sans les mettre en difficulté quand la crise sera passée. C'est pas l'État qui va débloquer l'argent, c'est la banque qui la prête à taux zéro au départ pendant un an. C'est pour ça que c'est la banque qui doit analyser la situation, voir si c'est faisable ou pas. À partir du moment où la banque a donné son accord, l'État, d'office, dit « je me porte garant sur ce prêt » à hauteur de 90%. Donc normalement, on n'aura aucun problème, entre guillemets, à suivre les financements, puisque la Banque Centrale Européenne sera là derrière si jamais la banque elle-même n'a pas la capacité à le faire. Pour le moment, j'ai encore refusé aucun prêt. Et moi, là où j'étais frappée et à la fois rassurée, c'est que les patrons, ils se sont beaucoup inquiétés vis-à-vis de leurs salariés. Quand je les ai au téléphone, les clients, ce que je ressens en premier, c'est la peur. Ils ont peur de ne pas maîtriser ce qui se passe et de pas pouvoir évaluer ce qui va leur arriver. Il y a quand même une chose aussi qu'on entend dans leur voix quand ils vous appellent, c'est que leur situation est plus importante que toutes les autres. Donc on a tous envie de les prioriser, mais bon, on n'a que deux bras. Donc on fait les choses au fur et à mesure. Mais c'est vrai que on se dit comment je vais réussir à tous les accompagner aussi bien, aussi vite et de façon... réellement sentir des mots trop forts mais salvatrices pour eux, quoi, que ça puisse les sauver pour ceux qui seraient le plus en danger. Je sais pas si j'arriverai à les rassurer si ça devait durer encore 2, 3 mois, 4 mois. Ce sont toujours les plus gros qui peuvent s'en sortir, les grosses entreprises, les moyennes, parce que plus t'as une dimension d'entreprise élevé, plus t'es exposé à des risques et plus ça fait partie des sujets de réflexion avec tes équipes. C'était d'une certaine taille, doivent avoir un plan de continuité d'activité. Il fait que, ils sont prêts plus ou moins à faire face à des chocs. Bon, là, c'est un choc sanitaire, mais ça pourrait être autre chose. Mais les petits, non, ils ont déjà parfois du mal à voir leur trésorerie sur une semaine. Alors, évidemment, et ceux-là qui risquent de partir, de pas s'en sortir en remettre. Les gros, ils vivent pas que de prêts bancaires, hein. Ils vont pas juste voir leur banquier, leur conseillère pour avoir un financement. Ils vivent par des actionnaires. La bourse, c'est un moyen de financer les investissements. Donc, oui, ça les intéresse, la bourse. Alors, à moins d'avoir un monde où il n'y a plus de grosses multinationales, je suis pas sûre qu'on puisse vivre sans bourse. Enfin, pas vivre comme on vit aujourd'hui. Il y a moi qui ai des décisions politiques, globales, sur les plus grandes puissances, un peu convergentes. Moi, j'ai peine à croire que ça va vraiment modifier durablement les situations. J'aimerais beaucoup, mais je suis pas sûre. Enfin, si ça dure plus longtemps, justement, peut-être, parce que il va falloir trouver des solutions pour survivre, parce que le prêt par l'État, il va pas permettre de vivre un an comme ça, sans travailler. Mais si finalement tout rentre dans l'ordre cet été, c'est pas sûr que ça fasse beaucoup de changements. Moi, j'aimerais qu'il y ait que des petites entreprises, mais au final, je travaille dans une grande. Hein. C'est complètement... ambivalent comme discours. Après, ça fait longtemps que je réfléchis à des structures plus petites, plus locales. On appelle ça des banques régionales, quoi, pour plus de proximité. Mais je pense que ça, on peut donner du sens dans ce métier justement. C'est pas uniquement faire de l'argent et puis quitte à écraser tout ce qui bouge. Hein.
Perdre son sang, fendre le
C'était Banqueroute au temps du Corona, reportage de Fabienne Lhomonier, réalisé par Cécile Lafont. Merci à Guillaume, Vincent et Hélène, à Thibault, à Belkacem, à Clara, à Régis, à Justine, à Estelle, à Nabil et à Victoire. Au mixage, Pierrick Charles, l'attaché de production, c'est Roxane Poulain et notre stagiaire, c'est Sarah Djirioui.
Se rappelle.